Il y a une espèce de dicton qui circule parce que j'allais quand même très souvent en Californie avant la pandémie. Les gars disaient « The smartest people are selling ads ». Ça m'écœurait un peu ça, que comme les gens qui ont les moyens, qui sont les plus expérimentés, les plus intelligents finalement dans le business de la technologie, fassent quoi? Vendre la pub. Fait que je me disais, on a pas mal de problèmes sérieux sur la paire. Fait qu'il faudrait commencer peut-être à attaquer les vrais problèmes. Donc, ça a été ça la genèse de Fulio.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 53e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook, par mois, G7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Lors du 49e épisode de Hypercroissance, on avait eu la chance de discuter avec Vincent Fortin de l'importance d'intégrer une raison sociale à son entreprise en 2020. Aujourd'hui, on continue sur cette lancée avec un entrepreneur qui vit présentement une hypercroissance totale. Jonathan Lefoy, président et fondateur de l'application Foodiro, va nous expliquer aujourd'hui comment en l'espace d'un an, il a été capable d'acquérir plus de 400 000 utilisateurs à son application mobile, tout en générant des centaines de milliers de dollars de revenus mois après mois. En plus d'accélérer en cinquième vitesse, Jonathan accomplit une cause excessivement noble en réduisant considérablement le gaspillage alimentaire. L'application Foodiro permet d'aider les commerces vendant de la nourriture à éliminer les pertes alimentaires en offrant à monsieur et madame tout le monde les produits non achetés dans les épiceries. Dans l'entretien qui dure près d'une heure, on parle donc d'hypercroissance, stratégie d'acquisition, expansion, cause sociale et levée de fonds. Sans plus attendre, ma discussion avec Jonathan Defoy. Jonathan Defoy, tu es le président et fondateur de l'application Foodiro, une entreprise qui aide les épiceries à réduire les pertes alimentaires. Lancée officiellement en 2019, l'application vit présentement une hypercroissance en ayant déjà été téléchargée plus de 400 000 fois par les Québécois. Avant Foodiro, tu avais également bâti une entreprise internationale se nommant Bitstree, qui à ce jour a desservi plus de 250 000 clients. Jonathan Defoy, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Antoine, ça fait plaisir.
Jonathan, tu gravites dans le milieu technologique depuis tes débuts en affaires. Puis avant de parler de Foodiro aujourd'hui, peux-tu nous expliquer comment tu as lancé Bitstree en 2001?
Absolument, ça me rajeunira pas. Écoute, Bitstree, bon, ça a été c'est même pas ma première entreprise, mais disons que c'était ma première vraie entreprise que j'ai fondée juste en sortant de l'université. Donc, on était dans une autre époque complètement, là, juste pour vous dire, en 2001, il y avait pas beaucoup de monde qui faisait du commerce électronique au Québec. Google AdWords n'existait même pas. Je pense que ça a plutôt sorti en 2002. Évidemment, les médias sociaux n'existaient pas non plus. Donc, on était dans un autre univers complètement. On était au début du commerce électronique. Donc, écoute, Antoine, moi, j'ai fondé ça de la bonne vieille façon. À partir de mon appartement de l'île des Sœurs, avec mon associé à l'époque, on couchait tous les deux là-dedans sur le plancher ou à peu près, à mangeant du beurre de peanut, comme on dit. Donc, on a créé notre premier produit qui roule encore aujourd'hui, qui s'appelle Business in a Box. On a tout fait. Là. T'sais, on était les petits entrepreneurs hommes orchestre à l'époque. Donc, le produit était une librairie de modèles de documents d'affaires. On peut penser à des contrats, des plans marketing, des plans d'affaires, des résolutions de conseil d'administration, etc., etc. Donc, on a créé cette librairie-là de différentes manières. Je n'irai pas trop dans les détails parce que ça pourrait être long. Mais, on est arrivé avec une première version de produit. C'était essentiellement du contenu à l'époque. C'était des documents Word essentiellement dans un zip file, comme on dit. Puis là, on s'est lancé pour vendre ça sur Internet. Donc, ça a marché instantanément. Ça, c'est je me rappellerai toujours du feeling. On l'avait mis sur Internet encore une fois. Là, on était au tout début du commerce électronique. Puis en dedans d'une couple d'heures, on avait fait nos premières ventes. Fait qu'on avait ramassé des listes de courriels. On avait carrément spammé des courriels d'entreprises qu'on avait. À l'époque, disons que c'était semi-permis, plus un peu le Far West qu'aujourd'hui. Et puis, on avait essayé toutes sortes de choses. Donc, on est parti de base, on avait quand même un produit qui résonnait avec les PME. Pas cher non plus, 200 $ US. Donc, on était sur le modèle, on essayait de copier un peu le modèle QuickBooks, Microsoft Office en termes de pricing, de positionnement. On a parti cette entreprise-là vraiment par nos propres moyens, en allant chercher les quelques petites subventions qui étaient disponibles, en surchargeant nos cartes de crédit, où on était encore, on venait juste de sortir de l'université, en allant chercher un petit peu d'argent de nos parents, nos amis, la BDC, je me souviens à l'époque aussi, qui avait embarqué assez rapidement. Donc, vu que c'était un produit complètement 100% digital, évidemment, la marge de profit était très élevée, particulièrement quand on était deux gars dans un appart, comme on dit. Donc, ça grossit quand même rapidement. Là. Très rapidement, on s'est ramassé avec les bureaux au centre-ville de Montréal. Ça a été une belle aventure. Ça a été une très belle histoire. La croissance continue pendant une bonne douzaine d'années. On a quand même eu, moi, les dernières années, j'ai vendu cette compagnie-là en 2017. On a quand même frappé des moments difficiles en 2013-2014, notamment parce qu'on est ici pour parler d'hypercroissance et c'est évidemment très associé au marketing digital, en tout cas selon moi, sa façon d'exploser, puis on va sûrement me poser plus de questions là-dessus. Mais on était quand même rapidement devenus parmi les plus gros clients de Google au Canada. Donc, on a même, moi et mon associé Bruno, est allé une couple de fois donner des conférences au Googleplex à Mountain View. Et on avait même rencontré, ça je pense c'était en 2004, au tout début de Google, parce qu'on performait vraiment beaucoup, puis il était curieux de savoir ce qu'on faisait. On avait même croisé Sergey et Larry rapidement à l'époque. Fait qu'on a eu pas mal de fun. On a eu pas mal de fun dans ces années-là. On a ridé la vague du pay-per-click, des débuts du pay-per-click. Et nous, étant donné que dans le fond, on était un produit à contenu, puis on avait à peu près 2000 documents dans notre librairie qu'on avait fait traduire au fil des ans dans 7 langues. Fait qu'on avait, chaque document avait sa page web. Sa landing page, comme on dit dans le jargon. Donc, c'était vraiment, je veux dire, Google s'amusait là-dedans à fond, là. Donc, ça a été une machine qui générait énormément de trafic au niveau mondial. On a vendu ce produit-là dans 200 pays et territoires, vraiment partout. Tu parlais en introduction de 250 000 clients. Ça a été pas mal plus que ça, mais je dirais le chiffre qui est encore plus impressionnant, c'est le nombre d'utilisateurs, parce qu'on avait quand même une version démo gratuite. Je crois que ça doit être rendu aux environs. Quand j'ai vendu, je pense qu'on était rendu à près de 30 millions. 25-30 millions. Ouais. Donc on avait à peu près 25 millions de visiteurs par année sur notre site. Et on parle de B2B quand même, là. Donc, on n'est pas en grand public, là, disons comme Food Hero.
Puis, je suis curieux, à combien d'employés vous avez amené ça? Aviez-vous besoin de beaucoup de main-d'œuvre pour ça?
À son sommet, Bistry, on était 50 employés. On était à peu près une cinquantaine d'employés. Ensuite de ça, ce qui a été un peu difficile, les années difficiles, on a vraiment frappé une tempête parfaite, comme on dit. Donc, comme je disais, on dépendait quand même beaucoup de SEO puis de pay-per-click. Puis Google s'est mis à jouer dans ses algorithmes. Ça nous a chamboulé complètement. Parce que je me souviens, on avait perdu début 2013 il y a eu des, je me souviens plus, c'était Pingouin, ou en tout cas, quel update qu'il y avait eu à l'époque sur les algorithmes de recherche. Donc, on avait perdu beaucoup de SEO, vraiment du jour au lendemain. Ce qui avait un peu aussi eu un effet d'entraînement sur notre pay-per-click. Ensuite de ça, nous, on vendait principalement en dollars US. À cette époque-là aussi, le dollar canadien était momentanément devenu plus fort que le dollar US. Fait que ça, c'est... vraiment, on a eu un enlignement de facteurs qui était sorti de nulle part, puis qui a littéralement mis l'entreprise en danger pendant à peu près un an et demi. Suite à ça, on a décidé qu'on dégraissait parce qu'on n'avait pas le choix. Donc, on avait d'autres projets qu'on travaillait, mais qui n'étaient pas nécessairement sur le point de générer des revenus. Fait qu'on a coupé tout ça, puis on a redescendu à peu près à la moitié là, de notre staff. Puis après ça, on a roulé ça très ligne, comme on dit, pendant les années suivantes. On était vraiment focusé à ce moment-là plus sur la profitabilité que la croissance. Puis moi, ben pour faire le lien en Food Hero, ce qui est arrivé, c'est que non seulement j'ai eu l'idée de Food Hero pendant que j'étais encore dans Bistree, mais j'avais quand même une autre compagnie aussi. Donc, je me suis ramassé à un moment où j'avais deux compagnies, dont Bistree, plus une troisième qui m'empêchait de dormir la nuit, qui est devenue Food Hero. Alors, il y en a une que j'ai carrément tuée parce que je n'étais pas trop satisfait d'où ça s'en allait, puis j'ai vendu mes parts dans Bistree. Et the rest is a story.
Parlons-en de ça, parce que présentement, Food Hero, au moment où on se parle, ça fait quoi, à peu près un an de commercialisation maintenant? 400 000 téléchargements juste au Québec, une application qui est profitable également, qui fait déjà des revenus. Parle-nous un petit peu de cette genèse-là. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Bon, on voit que tu as un background technologique, mais est-ce que tu as vu un enjeu qui se devait d'être réglé? Où est-ce qui est venu le déclic?
Absolument. Excellente question. Puis je l'ai quand même répondu assez souvent à cette question-là. On m'a l'a posé assez souvent. En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que on se ramène au printemps 2016. Donc, j'étais dans le processus déjà de... Je voulais vendre Bistree. Donc, j'étais engagé dans ce processus-là. Je voulais passer à d'autres choses. Et comme je disais, j'avais créé à l'époque une application mobile qui était intéressante. Je m'étendrai pas sur le sujet, mais qui était vraiment un play là, purement, potentiellement, avec des API, puis quelque chose qui était soit explosif ou un flop. Puis, ça a été un peu entre les deux, mais j'ai décidé que ça m'intéressait plus, ça. Puis, c'est là que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, bon, si je vends à Bistree, puis que je me rapporte en affaires immédiatement, il faut absolument que je fasse ça faut que j'aille une cause sociale. Il faut que j'aille une motivation qui va être au-delà de juste la partie financière, d'être en affaires. Donc, je me suis mis à chercher des idées dans ce domaine-là. Qu'est-ce que je pouvais faire qui allait régler un vrai problème, qui allait faire en sorte que je serais pas là juste pour l'argent, je partirais quelque chose qui aurait une belle mission, impact social positif, etc. Puis le déclic est arrivé par pur hasard. Un dimanche matin, j'ai ouvert la télévision, tombé sur le poste communautaire de Vidéotron. Puis il y avait un reportage sur le gaspillage alimentaire. Puis là, ben, quand j'ai vu les chiffres, les fils se sont connectés. Je me suis dit tout de suite, j'ai eu vraiment l'eureka. Je l'ai vu tout de suite. J'ai eu même le nom Food Hero, je l'ai eu quasi instantanément. J'ai réussi à racheter le nom de domaine qui appartenait à quelqu'un, je pense, en Singapour, aux Philippines. 5000 US, quand même un bon montant, mais pas excessif non plus. Fait que tout de suite, je suis parti avec ça. Puis là, comme je disais tantôt, j'avais quand même deux de mes propres compagnies dans mes jambes. Donc, j'ai avancé tout ça en parallèle. Puis, véritablement, Food Hero, ça a été plus en 2017 là, que j'ai commencé à travailler sérieusement là-dessus. Donc, pour répondre à ta question, il y avait une énorme motivation parce que pour faire un peu le lien par rapport à ce que je disais sur Google, puis la pub en ligne, etc., à Silicon Valley, disons qu'ils s'en sont mis extraordinairement plein les poches dans les 20 dernières années. Puis il y a une espèce de dicton qui circule parce que j'allais quand même très souvent en Californie avant la pandémie, qui dit, les gars disaient, the smartest people are selling ads. Fait que moi, ça m'écœurait un peu ça, que comme les gens un peu les plus, tu sais, les plus, qui ont les moyens, qui sont les plus expérimentés, les plus intelligents finalement dans le business de la technologie, fassent quoi? Vendre la pub. Tu sais, fait que je me disais, on a pas mal de problèmes sérieux sur la terre. Fait qu'il faudrait commencer peut-être à attaquer les vrais problèmes. Donc, ça a été ça, la genèse de Fugio.
J'adore ce que j'entends. Maintenant, moi, je te connais, t'es un gars de marketing, t'es un entrepreneur. Peut-être que t'as un background tech, mais il a fallu que tu t'entoures, j'imagine, pour bâtir cette application-là. Comment t'as fait ça? Est-ce que t'as déjà engagé des développeurs directement? Est-ce que t'as trouvé des contracteurs externes? Ça a été quoi la vision autour de ça?
Excellente question. Je vais quand même me permettre d'amener un correctif. Les 400 000 téléchargements, en fait, c'est même pas en un an, parce qu'on a lancé en mai 2019, puis de mai 2019 à mars jusqu'avant la pandémie en mars 2020. Fait que ça fait quoi, ça, un 7, 8, 9 mois, on a généré 400 000 téléchargements. Donc, malheureusement, on a été freiné par la pandémie. On est reparti, c'est une autre histoire. Pour répondre à ta question, j'ai pas un background technique en tant que programmeur, mais étant donné que ça fait 20 ans et plus que je suis en technologie, où j'ai fait des études en administration, j'ai quand même fait des cours aussi au MIT. Donc, j'ai une très forte compréhension de la technologie, mais si je prenais une analogie par rapport à, disons, la construction, je suis un architecte, mais je suis pas vraiment capable de planter des clous. Donc, je code pas, mais je suis capable de voir le big picture, comme on dit. Donc, dans le cas de Food Hero, c'est quand même une entreprise que je pouvais pas partir bootstrap comme Bistree, parce que c'est un marketplace, c'est une place de marché. Donc, il y a quand même une assez importante infrastructure technologique en dessous de ça. Puis, ça a demandé quand même pas mal de millions de dollars d'investissement. Donc, au départ, je suis parti avec rien, bien évidemment. Puis, j'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon, je m'excuse pour les anglicismes, du brochure marketing. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avais appris au MIT. Dans le fond, j'ai fait faire un petit site web un peu boboche de base, un petit WordPress, mais qui avait quand même un peu de gueule. J'ai fait programmer des écrans d'app mobile. J'ai parti des comptes de médias sociaux par rapport à la cause du gaspillage alimentaire. Et je me suis créé une belle présentation PowerPoint. Fait qu'un show de boucan, finalement, au départ, parce que j'avais fait plusieurs erreurs dans ma carrière d'entrepreneur, puis la très grande majorité du temps, les deux grosses erreurs qui ressortaient, c'était pas fait mes devoirs au niveau de l'étude de marché, un. Deux, tomber en amour avec mes idées, avec mes opportunités, et donc là, ça m'aveuglait un peu, puis j'avais tendance à voir mes affaires un peu avec des lunettes roses. Fait que là, je m'étais dit aussi, si je repars, je me regarroche pas, je vais, tu sais, faut absolument que j'aille appris de mes erreurs. Donc, j'ai pris quand même beaucoup de temps pour faire mes études de marché dans Food Hero. Puis pour en revenir à mon show de boucan, Smoke and Mirror Show, comme on dit, dans le fond, je suis parti avec mes éléments. Mon petit site web, mes petits comptes de médias sociaux qui avaient une couple de milliers d'abonnés qui étaient là pour la cause gaspillage alimentaire, mes écrans d'application qui n'existaient pas, évidemment, mais j'avais déjà la vision, ma présentation PowerPoint. Puis là, je suis allé vendre ça à Sobeys et Metro. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que l'investissement, au départ, était très, très minime, 25 à 50 000 peut-être. Puis, j'ai vu que ça mordait. Donc, à partir de ce moment-là, ça a quand même pris environ un an et demi entre mes premiers meetings puis signer les contrats. Donc, pendant cette année et demie-là, j'ai repoussé. Je vais absolument pas commencer à bâtir quelque chose qui n'allait pas marcher. Donc, j'ai avancé conceptuellement pendant ce temps-là. mais avec à peu près pas de dépenses. Fait qu'à l'époque, j'étais seul avec quelques contractuels. Là, je suis allé chercher un premier million de financement environ. J'ai mis un petit peu d'argent de ma poche aussi. Puis là, c'est là qu'on a bâti, on a commencé à bâtir le produit. Donc, j'avais pas la certitude que ça allait fonctionner, mais j'avais un très bon feeling. Puis j'avais quand même des à l'époque, j'avais seulement Sobeys, mais j'avais quand même un contrat en poche avec Sobeys, qui est le deuxième plus gros joueur au Canada avec 1500 magasins. Donc, tu sais, on avait quelque chose qu'on pouvait être confiant qu'on avait potentiellement un succès en construction. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Sinon, je te dirais beaucoup, beaucoup. Puis ça, c'est un modèle que j'ai pas vu souvent, mais mes deux dernières compagnies, je les ai bâties comme ça. Très peu d'employés au début, beaucoup de contractuels, parce que j'aime la flexibilité que ça donne. J'aime le manpower que ça donne aussi. Donner un exemple, quand j'ai commencé à bâtir mon produit, j'ai instantanément choisi une firme de développement qui s'avérait appartenir à mon co-actionnaire. Donc, c'était assez facile à ce niveau-là. On est parti de 0 à 18 programmeurs, comme ça. Ça, c'était en 2018, en pleine pénurie de main-d'œuvre. Encore beaucoup plus au niveau des programmeurs. Ça m'a, tu sais, j'ai vraiment bâti ça comme ça. Je suis allé me chercher des bonnes firmes de outsourcing, puis dans un peu toutes les facettes de l'entreprise. Puis ça m'a donné de la force de frappe partout. Fait que quand j'ai pesé sur le bouton, c'est allé quand même pas mal vite pour bâtir tout ça.
Hey, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je veux revenir sur ton million de dollars que tu as levé. Est-ce que c'était en dette ou c'était en seed round ou est-ce que les gens sont venus prendre de l'équité dans l'entreprise?
Seed round, équité à l'époque. Valorisation quand même, bon, je ne dévoilerai pas tous mes chiffres sur la place publique, mais quelque chose de fair, je me suis pas dilué trop. Mais c'était quand même déjà sexy parce que j'avais, comme je dis, un contrat en poche de Sobeys. Je savais exactement où je m'en allais. Je venais de bâtir une app mobile qui fonctionnait parfaitement, mais j'avais décidé, puis c'était avec ces gens-là en plus. Fait qu'on a décidé de tuer cette compagnie-là parce qu'on voulait sauter dans le bateau de Food Hero, tout simplement. Donc, il y a eu ce contexte-là aussi qui était quand même particulier. J'avais déjà mes équipes en place, pas d'employés, mais de fournisseurs aussi. Des super bons mondes en marketing, les programmeurs, des gens au niveau qui étaient prêts au niveau PR, recrutement, etc. Donc ça n'a pas été trop compliqué de lever cette ronde là.
Intéressant. Maintenant on est là, un an plus tard, 400 000 téléchargements. Comment tu fais ça? Comment tu te rends là en une seule province? J'en côtoie des gens qui ont lancé des applications. C'est des chiffres totalement exceptionnels que t'as avec toi. Parle-nous un petit peu là, la sauce secrète. Ça ressemble à quoi?
Oh mon Dieu, qu'il y a beaucoup de choses en dessous de ça. C'est vraiment une combinaison de plein de trucs. Je dirais que la première chose, je l'ai dit tantôt, avoir fait ses devoirs au niveau de l'étude de marché. Donc, moi, étant donné que je suis un marketplace, il fallait que je valide les deux côtés. Donc, que les marchands, donc les Sobeys, Metro, Loblaws, Walmart de ce monde, qui trouvaient que c'était une bonne opportunité et qu'elle était faisable. Donc ça, comme je disais, ça a pris quand même un an et demi, là, juste les discussions, puis valider ça, puis brasser des idées, puis négocier avec ce monde-là. Donc, j'avais la validation du côté marchand, puis la validation du côté consommateur, je l'avais moins, mais j'étais sûr et certain que ça allait marcher parce que on parle quand même d'une commodité, on parle d'une cause, premièrement, qui interpelle, réduire le gaspillage alimentaire, puis on parle de nourriture à très fort rabais. Donc, c'est assez mass market, là. On n'est pas dans une niche. J'avais quand même fait des sondages pour être sûr de mes affaires. Fait que je partais en bonne confiance. Fait que premier point, étude de marché, très, 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 très important pour les entrepreneurs qui nous entendent ou qui veulent se partir quelque chose ou qui sont en train de le faire. Deuxième point, le produit. Bon, j'avais la chance, c'était pas mon premier produit, c'était mon quatrième ou cinquième produit, toujours dans du logiciel, dans de l'application mobile. Donc, on a mis quand même énormément de temps et d'argent dans bâtir le produit. Donc, t'iras pas très loin si ton marketing est fantastique, mais que ton produit est poche. On va se dire les vraies choses.
100%.
Le produit était très important. Puis après ça, si on finit, disons, au niveau du marketing, écoute, j'ai tiré tout ce que j'avais là. Fait que c'est 15, 17, 18 ans d'expérience en marketing, à faire des erreurs, à perdre beaucoup d'argent dans différentes affaires. Donc, j'avais quand même un bon feeling de comment commercialiser ce genre d'application-là. Mais je me suis fait quand même une liste. Je me souviens qu'il devait avoir à peu près 25 go-to-market strategies, là, donc canaux en marketing, allant de, évidemment, bon, les médias sociaux, utiliser des influenceurs, content marketing, le pay-per-click, en mode recherche, là, en mode search avec Google, Facebook, pub Facebook. Écoute, on a quand même, je te dirais, Antoine, pratiquement tout essayé. On a fait de la radio. On a fait du publipostage. J'ai pas fait de publicité à la télé encore, ça s'en vient, mais on a eu quand même beaucoup de PR. Ça fait que ça a aidé énormément aussi. Fait que c'est vraiment le playbook marketing au complet, ou presque. Puis, parce que j'étais déjà passé par là, puis notamment Bistry, on avait fait ça aussi. C'est vraiment... L'idée, c'est que là, j'apprendrai pas nécessairement grand-chose je veux dire, c'est quand même connu aujourd'hui, mais tu veux micro-tester différents médias, différents messages. Pas trop micro, parce que tu pourrais passer à côté d'une opportunité, mais quand même donner un budget où tu dis, regarde là, j'ai tout donné dans mon message, je pense que je suis pas capable de vendre à prime abord mon produit mieux qu'avec ces arguments-là. Puis, je fais mon possible pour choisir ce que je pense être la meilleure audience. Puis, je mets un budget décent, puis je l'essaie. Fait que c'est ça qu'on a fait un peu partout afin de finalement raffiner notre marketing mix. J'oublie aussi la viralité. J'oublie la viralité qui est quand même très importante dans Foodiro. On a un programme de référencement. Donc, quand tu invites des amis, tu reçois 5$ pour chaque ami qui va acheter sur l'application. Donc ça fait une croissance organique. Fait qu'honnêtement, c'est tout. C'est pas juste une chose. Et la chose aussi qu'on peut pas se cacher là aujourd'hui, ça prend de l'argent. Si t'arrives et t'as bâti un super produit, mais t'as zéro budget marketing pour la commercialisation, bonne chance. Malheureusement, c'est fini un peu l'époque où, tu sais, Antoine, on pense juste à Facebook, là, c'est rendu du pay-to-play, là. Je veux dire, tu payes pas dans Facebook, il se passe plus rien. C'est partout, tu sais, c'est partout dans tous les médias. Donc, ouais, je résumerais ça pas mal avec bonne étude de marché, beaucoup d'efforts sur le produit, beaucoup de tests en marketing et ça prenait quand même un budget pour y arriver aussi.
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoute. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, A commercial, J, le chiffre 7, média au singulier, .com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. C'est intéressant, t'as mentionné un truc, t'as eu beaucoup de PR. Foodie Row, là, c'est une cause que les médias veulent s'approprier parce que c'est facile à marketer même d'un niveau PR, là. Ça répond à tout, ça répond à tout ce que tu veux. Puis je veux revenir au point que t'as mentionné, le volet financier, le volet monétaire. À quel point que même en ce moment, tu vois des enjeux pour lever une prochaine ronde? Parce que là, présentement, de ce que je comprends, tu travailles beaucoup avec du financement externe. Est-ce que ça se présente facilement à des investisseurs d'arriver et dire « j'ai une preuve de concept au Québec, je veux l'amener aux States, je veux l'amener au Canada anglophone ». Est-ce que c'est quelque chose d'alléchant là, présentement, ça, devant des investisseurs?
La réponse est oui. La réponse est oui. Mais je dirais, toutes choses étant égales par ailleurs, dans le sens que aujourd'hui, les investisseurs sont rendus beaucoup plus sophistiqués qu'ils étaient à l'époque. Je pense quand j'ai parti Bistree, dans les premières années de Bistree. Donc, le marché de l'investissement, puis c'est une bonne chose parce que, dans le fond, tellement de gens se sont brûlés parce que on se comptera pas d'histoire là, des startups, c'est hautement risqué. Puis le taux de succès est très bas. Parce que c'est dur, c'est très, très, très dur. On est dans un monde très compétitif. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont déjà été inventées. Donc, il y a encore énormément d'opportunités, mais tout est de plus en plus sophistiqué. Puis de plus en plus, je veux dire, à part si tu pars un restaurant, disons, au coin de la rue ou un nettoyeur, puis je dénigre pas ça, là, ça peut être des bonnes compagnies, mais quasiment tout est rendu mondial. Je veux dire, t'as de la compétition qui vient de partout. Donc la game s'est élevée, ça c'est sûr. Les investisseurs ont suivi. Puis ce que ça a fait sur les investisseurs, c'est que sont devenus beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus exigeants, beaucoup moins de lunettes roses. Et également, ils se sont déplacés beaucoup plus late stage. Donc du capital de démarrage, ça, moi, ce que je remarque, c'est que c'est de plus en plus difficile. C'est comme le premier, je veux pas décourager personne, là, mais le premier 100 à 250 000, c'est comme, faut que tu te débrouilles. Faut que tu te débrouilles pour le trouver d'une façon quelconque, parce que c'est au début que c'est le plus dur. Quand tu arrives avec, tu sais, pour reprendre ton point, quand tu arrives avec un, non seulement une preuve de concept, mais je veux dire, t'as des clients, tu génères des revenus. T'as pas besoin d'être profitable, mais tu génères des revenus. Mm-hmm. T'es en forte croissance. Ton marché est gros. Ça commence à être une histoire qui devient pas mal sexy pour les investisseurs, évidemment. Puis aujourd'hui, il y a pas de limite. T'sais, donc, autant la game est plus tough. Moi, je dirais ça, là, c'est une opinion personnelle. Mais autant la game est plus tough, autant le marché est beaucoup plus ouvert. Donc, tu peux opérer à partir du Québec puis avoir un investisseur d'Arabie Saoudite ou de Suède ou évidemment de Californie ou de... Fait que, tu sais, il y a comme deux côtés à médaille, mais il y a de la compétition. Faut que tu sois capable de bien articuler ton histoire. Faut que tu sois capable de bien vendre ton histoire, évidemment. Et je dirais, faut que tu ailles dans le marché au bon moment aussi. T'sais, pas trop tôt, pas trop tard, disons, c'est peut-être un peu moins une possibilité, mais aller trop tôt, ça peut être... tu peux te brûler, tu sais, si t'arrives trop tôt, surtout si t'as mal ciblé tes investisseurs, si tu commences à aller parler à des gens qui font, je veux dire, n'importe quoi, des chèques de 5 millions et plus, mais toi, tu cherches 500 000, t'es en train de faire perdre le temps à tout le monde, y compris le tien. Écoute, je parle beaucoup, je donne beaucoup de détails. Mais oui, le message que je veux dire, c'est que c'est faisable. C'est absolument faisable, mais c'est définitivement, pour moi, de zéro à ton premier dollar de vente. Pour moi, par expérience, c'est vraiment là que c'est le plus difficile. Je suis un client de ClearBank. Je suis un client de ClearBank. Je dirais pas un des premiers, parce que quand même pas. Mais je suis client ClearBank depuis quasiment les débuts de Foodie Row. Je dirais que je suis un assez gros client de ClearBank. Je les avais spotés assez rapidement. Je le recommande. Je le recommande fortement. Puis je dirais là-dessus, au début, moi, la façon que je l'ai regardé, je l'ai peut-être pas regardé de la bonne façon, mais ça, c'est une opinion personnelle. Parce que pour les gens qui le savent pas, dans le fond, c'est comme de la facturage moderne. Donc, ce que tu fais, c'est que tu branches c'est beaucoup, presque exclusivement pour des compagnies de commerce électronique, là, faut quand même le préciser. que tu fais, c'est que tu vas aller brancher tes comptes de, exemple, de Stripe, donc ton compte de carte de crédit, de compte marchand de carte de crédit. Donc, avec ça, ils vont voir tes revenus. Puis, de l'autre côté, tu vas brancher tes comptes de Google, Facebook, Twitter, etc. Donc, tes campagnes publicitaires. Moi, je les ai même poussées. Aujourd'hui, ils acceptent. Moi, ils m'ont même financé ma radio récemment. Ça, c'était la première fois que je faisais ça. Ils m'ont financé du publipostage aussi parce qu'ils aiment beaucoup Foodie Road. Puis, ils voient que notre croissance est vraiment rapide. Puis il charge 6% dans le fond, mais c'est un 6.
T'as un bon taux.
Ouais, ben si c'est un 6, mon point que j'allais faire, c'est que si tu le regardes comme de l'intérêt, fait que si tu le compares, mettons, à un, je vais te dire n'importe quoi, à un prêt de la BDC, tu l'aimeras pas le 6% parce que le 6%, il va te le coûter en dedans de 2, 3, 4 mois. Fait que si tu l'annualises, ça fait beaucoup. Mais moi, je le vois plus comme ça. Moi, je le vois comme, dans le fond, ma pub, elle me coûte 1.06 fois ce qu'elle me coûte vraiment. Donc, quand tu le vois comme ça, c'est un véhicule qui permet effectivement d'aller excessivement rapidement parce que t'as pas de caution personnelle à donner, t'as pas de garantie, c'est pas un prêt, c'est pas de l'équité. Fait que très bon Clearbank, très, très bon.
Ben, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que si tu vas donner de l'équité, comme tu dis, pour avoir du financement externe qui risque de financer ton investissement publicitaire, tu sais. Donc, c'est ça qui est intéressant. T'en as parlé brièvement. C'est quoi les next steps pour les prochains marchés?
Écoute, ben, c'est sûr, les États-Unis, évidemment, c'est certain que, tu sais, je veux dire, c'est la règle du pouce. Le marché américain est toujours, grosso modo, à peu près 10 fois plus gros que le marché canadien. Donc, en fait, nous, les ententes qu'on a avec Metro, Sobeys, devraient normalement nous permettre de déployer au niveau national. Donc, on parle quand même de 2000 magasins, même un peu plus, là, les deux chaînes ensemble. Fait que juste ça, disons que si on n'avait pas eu la pandémie, on serait à ce temps-ci, à la fin de 2020, on aurait un bon bout de fer. On a littéralement perdu 6 à 8 mois avec ça, comme bien des gens malheureusement. Mais première étape, continuer notre déploiement au Canada en continuant avec nos deux gros clients actuels. En parallèle, marché américain. Donc, je suis déjà en discussion avec quelques grosses chaînes. Faut juste laisser le cycle de vente se faire. Je pense que ça va être beaucoup plus rapide parce que là, on a des beaux chiffres à montrer, on est prouvé, on a des clients, etc. Ça devrait être plus facile à vendre qu'au départ quand c'était juste un concept, Foodie Row. Mais quand même, on parle d'énormes organisations avec énormément de d'étages dans tout ça, puis naviguer, puis à travers tout ça. Sinon, on a une mission de réduire le gaspillage alimentaire bien au-delà des épiceries. Donc, on a les autres créneaux qu'on regarde depuis le début. Restaurant a toujours été quelque chose qu'on... Bon, malheureusement, au moment d'enregistrer ceci, c'est pas le marché idéal, mais ça va revenir un jour, c'est sûr. Sinon, il y a beaucoup de pertes au niveau des fermes directement. Il y a d'autres marchés aussi, ou créneaux de marché comme les marchands indépendants, les petits commerces, les poissonneries, boulangeries, fromageries, boucheries, etc. Ça c'est bon pour Foodie Row aussi. Donc on a commencé là-dessus. On commence à avoir quelques petits indépendants. Fait que c'est d'essayer de d'avancer en parallèle dans tous ces marchés-là. Par contre, je dirais moi par expérience. Je vise toujours, évidemment, encore une fois, j'ai pas inventé la roue, là. J'essaie de scorer les plus gros, comme on dit. C'est comme, tu sais, parce que c'est le même, c'est grosso modo le même travail de signer Walmart qui a 11 500 magasins au monde que de, pour moi, de signer une chaîne qui aurait 22 épiceries. Donc, c'est évident qu'on essaye les plus gros, mais c'est sûr, c'est plus long aussi. Bref, on essaie d'être tout partout en même temps. On devrait avoir une bonne année 2021 comme c'est parti-là.
Intéressant. Jonathan, je terminerai avec des petites questions personnelles. T'es un gars d'affaires, ça fait longtemps que tu as des entreprises. Est-ce que t'es un lecteur? Est-ce que tu lis un petit peu pour avoir les meilleures pratiques, pour savoir c'est quoi un petit peu le prochain move que tu vas faire au niveau de tes entreprises?
Totalement. Je lis énormément. Pas juste des livres de business, comme on dit, mais oui, quand même, toujours. Je m'attendais à ce que tu me poses cette question-là, puisqu'on s'était un petit peu parlé avant l'entrevue des sujets qu'on allait aborder. Donc, j'ai ici présent 3 livres que je recommande fortement. Donc, il s'appelle Moonshot de Naveen Jain. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on parle d'hypercroissance, un classique. Hacking Growth, ça c'est extraordinairement bon. Ça c'est du pur Silicon Valley, l'autre aussi d'ailleurs, là, mais ça c'est vraiment très, très, très concentré sur comment bâtir ton équipe de croissance dans le fond, puis te mettre dans une mentalité de test, puis itérer rapidement, tout ça. Puis le troisième qui est The Future is Faster Than You Think, qui est un de mes héros, j'en ai pas beaucoup, mais un bonhomme qui s'appelle Peter Diamandis, que j'ai eu la chance de rencontrer une couple de fois, évidemment, Californie, Silicon Valley. Un gars très, très, très à l'avant-garde. Fait que c'est un peu ces 3 livres-là. Le premier, Moonshot, qui est d'ailleurs un ami de Peter Diamandis, Naveen, que j'avais eu la chance de rencontrer aussi. Moonshot, essentiellement, le propos du livre, c'est de dire c'est plus facile bâtir une très, très, très grosse compagnie qu'une petite. Donc, c'est un peu contre-intuitif. En fait, c'est pas nécessairement la grosseur de la compagnie, mais la grosseur de l'opportunité. Donc, pour donner un exemple, je vais pas dévoiler toutes les punches pour ceux qui voudraient lire, mais ce bonhomme-là, il a parti je sais pas combien de compagnies. Présentement, une de ces compagnies, il est en train de se préparer aller faire du mining, donc de l'exploitation minière sur la Lune et sur des astéroïdes. Donc, d'où le titre du livre, Moonshot. Fait que c'est ça. C'est complètement, t'es dans des opportunités complètement débiles. Puis, vraiment, les trucs qui changent le monde. Fait que c'est assez fascinant. Tu lis ça en tant qu'entrepreneur, tu te dis... Moi, ça a eu un effet un peu pervers. J'étais comme, non, Foodie Rose, c'est assez gros. Je me suis mis à me dire, hey, c'est pas assez gros, cette affaire-là. Fait que, non, je me suis recalmé un peu depuis. Très, très bon. Hacking Growth, comme j'ai dit, ça, c'est plus vraiment, tu sais...
Un classique.
Exact. Vraiment pour l'hypercroissance. Puis l'autre que j'ai montré, The Future is Faster Than You Think, lui, c'est vraiment pour aller découvrir ce que le futur nous réserve. Ces gens-là, c'est des tenants, ce qu'ils appellent eux autres les technologies exponentielles. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la viralité, quand tu intègres la viralité dans ton produit, donc ce qu'ils appellent le network effect, le marketing digital, etc., etc. Donc, c'est très intéressant parce que tu lis ça, puis dans le fond, ça donne une bonne compréhension de probablement où le monde s'en va dans 5, 10, 15 ans. Donc, c'est pas mal intéressant de prendre ça puis d'essayer de te situer par rapport à ton marché, ton entreprise, puis de projeter puis de dire, regarde, je vais faire une couple de moves d'avance si je suis capable plutôt que de laisser venir les changements qui s'en viennent.
C'est intéressant, les Hacking Growth, je connais très bien, mais pas les deux autres. Je pense que je vais mettre ça dans ma petite liste de lecture. Je suis un grand, grand fan de livres d'affaires aussi. Podcast, en écoutes-tu un peu?
Non, j'écoute pas de podcast, j'écoute des livres. Donc
audiobook.
Exactement, exactement. La raison pourquoi j'écoute pas de podcast, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y en a plein des bons, mais on dirait que j'ai jamais vraiment eu le temps de faire ça ou la passion de fouiller par rapport à ça. Je suis un gars qui est quand même... j'aime la théorie pure. J'aime pas tant que ça le blabla. Donc, quand ça me tente plus de lire, ben, j'ai trop lu ou je suis trop fatigué ou que je m'en prends une marche, peu importe. Puis que là, j'ai du temps pour écouter quelque chose dans ma voiture, etc. J'essaie de continuer à lire. Donc, je passe du livre avec Audible, effectivement.
Très intéressant. Routine. Est-ce que tu es une personne qui a une routine militaire, qui essaie de suivre certains patterns, le matin, le midi, le soir, pendant que tu travailles? Est-ce que c'est quelque chose qui est ancré dans ton quotidien?
La réponse est oui. C'est pas l'extrême militaire, mais c'est quand même, ça prend beaucoup de discipline. On n'a pas le choix. Puis moi, c'est sûr, je travaille beaucoup de la maison avec la pandémie, mais je travaillais déjà beaucoup de la maison avant. Donc, j'adore d'ailleurs parce que je suis extrêmement productif chez moi parce que ça fait quand même 5-6 ans là, que je travaille beaucoup de la maison. Donc, en termes de routine, je te dirais, j'essaie de me lever tôt, de me coucher pas trop tard la semaine, de me lever tôt. Par contre, j'ai présentement le luxe de... Je me lève jamais, je mets jamais de réveil matin. Donc, je me lève quand je me lève, d'une part. D'autre part, je me mets jamais de meeting le matin avant 10-11 heures. Parce que moi, je suis un gars qui a toujours bougé beaucoup de business, comme on dit, par courriel. Donc, le matin, c'est vraiment, en général, le moment où je suis le plus productif. Donc, je veux pas commencer à avoir des rencontres, devoir me déplacer, des vidéoconférences, etc. Fait que le matin, je torche, comme on dit, les dossiers les plus importants pendant que je suis frais et que j'ai de l'énergie. Une chose qui est assez drôle, qui est très personnelle, je travaille en écoutant de la musique techno depuis à peu près 20 ans. Je n'écoute jamais de musique techno. Je n'écoute plus de musique techno depuis très longtemps. Mais je travaille avec du trance dans le fond. Parce que, évidemment, quand je suis pas sur un appel, là, mais quand je suis tout seul en train de travailler devant mon ordi, vu que la musique est rapide, ça augmente ma productivité. C'est comme ça motive à aller plus vite. Fait que ça fait partie définitivement de mes routines. Sinon, je te dirais, en général, je m'entraîne le midi. Moi, je suis pas capable de m'entraîner le matin. Je trouve ça un petit peu trop tough. C'est rare que je suis capable de le faire. D'être incapable de m'entraîner le soir, je suis trop fatigué. Fait que en général, je casse ma journée aux alentours de l'heure du midi. Donc là, c'est sûr que les gyms sont fermés, mais bon, je fais mon exercice le midi. Des fois, ça peut être juste aller prendre une marche, tu sais, pour m'aérer, pour me changer un peu, prendre un break. Sinon, je te dirais, il n'y a pas grand-chose d'autre de bien particulier à ma routine. C'est sûr que c'est, on s'en doute, beaucoup d'heures de travail, évidemment. J'ai eu dans ma carrière très souvent à travailler le week-end. Puis, j'essaie de plus le faire. Là, j'essaie vraiment le plus possible de décrocher à la fin de semaine parce que je me rends compte que sinon, ça vient complètement fou. Puis, tu te ramasses que t'as pas nécessairement le temps de prendre la perspective. Puis,
t'es pas plus avancé.
C'est ça, exactement. C'est arrivé souvent que je me suis écœuré avec mes propres bébelles. Fait que, tu sais, quand t'arrives proche de l'écœurantite aiguë parce que t'as trop travaillé, t'as pas assez pris de break, c'est pas mieux, là. Tu te ramasses à être beaucoup moins productif. Sinon, peut-être dernier point que je dirais, j'étais historiquement un gros multitasker depuis, je sais pas exactement combien d'années, peut-être un 5 à 7 ans, quelque chose comme ça. J'ai réussi à dompter cette bête-là. Puis aujourd'hui, je fais vraiment, ça c'est clair, il y a de plus en plus d'études là, qui le prouvent, je fais vraiment une tâche à la fois. Puis comme je disais, toujours en train de révisiter l'ordre de mes priorités. Tout le temps. Fait que je veux tout le temps être en train de mettre mon temps où est-ce que ça va avoir le plus d'impact finalement, où est-ce que ça va générer le plus de valeur. Donc, je suis tout le temps en train de rebrasser mes priorités constamment.
Il y a un bon livre là-dessus qui a été écrit, One Thing, qui, bon, dans l'absolu, est assez simple. On se concentre sur une chose à la fois, mais les études qui ont été faites autour de ça, l'approche que les deux auteurs ont pris est complètement fascinante. Puis moi, ça a changé un peu ma manière de travailler. L'idée que One Thing a amené dans son livre, et ça revient à ça. Si tu essaies de te concentrer sur plusieurs choses à la fois, fais le comparatif sur si tu avais mis ton temps sur une seule chose, puis la productivité est même pas comparable. Donc, ça fait beaucoup de sens ce que tu viens de dire.
Ouais, c'est sûr qu'il y a l'expérience qui joue dans tout ça, mais moi, ça c'est un autre truc particulier par rapport à moi. Je suis anti-médias sociaux. depuis quelques années déjà. Donc, quoique je reconnais Facebook comme étant un outil extraordinaire d'acquisition de clients, mais moi, personnellement, j'ai complètement décroché des médias sociaux il y a quelques années. Je trouve que c'est une opinion personnelle. Pour beaucoup de gens, la plus grande perte de temps de l'histoire de l'humanité. Donc, moi, j'ai plus cette distraction-là. Donc, quand je travaille, je travaille. J'arrive à mettre de côté pas mal 90% des distractions possibles. Ça, je pense que c'est une clé aussi très importante.
Jonathan, merci beaucoup d'avoir pris du temps aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, là, on va les recommander d'aller télécharger Foodie Row. Moi, c'est sur mon téléphone. Les gens que je connais qui utilisent l'app trouvent ça fascinant, exceptionnel même. Donc, on va les inviter à télécharger l'application. Sinon, si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur peut-être des updates que vous faites, des rondes de financement, quoi que ce soit, y a-tu manière de rentrer en contact avec toi d'une manière spécifique?
Avec moi, la meilleure façon, c'est définitivement LinkedIn. Moi, personnellement, c'est LinkedIn. La compagnie, je vous dirais, on a un blog, évidemment, mais on publie pas nécessairement. On a plus un blog à contenu qu'un blog à nouvelles. Donc, les choses importantes, on les fait souvent la bonne vieille façon par communiqué de presse. Donc, oui, nos médias sociaux, évidemment, pour ceux que ça intéresse, malgré ce que je viens de dire. Non, les médias sociaux peuvent être bien utilisés. Disons que j'ai une dent contre les vidéos de chats sur YouTube. C'est ça. C'est autre genre de choses qui peuvent faire perdre énormément de temps. Donc, ouais, en général, quand on a quelque chose d'important à annoncer, on le publie un peu partout. Puis, ça fait quand même toujours plaisir de d'entrer en contact avec les entrepreneurs du Québec. Donc, n'hésitez pas. Merci pour la petite blog par rapport à Foodie Row, puis ça m'a fait bien plaisir, Antoine, de partager mon expérience aujourd'hui.
Bon, ben merci beaucoup, Jonathan. Puis pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que le 53e épisode de Hypercroissance vous aura permis de découvrir une nouvelle entreprise québécoise qui risque de faire beaucoup jaser dans les prochaines années. Si ce n'est pas fait, je vous invite à télécharger l'application Foodie Row. Je suis moi-même utilisateur et je vous confirme que l'expérience client est très intéressante. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com. Donc, agagne@j7media.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.